Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ils avaient assisté impuissants à la tuerie à Charlie Hebdo. Les rescapés de l'attentat de janvier 2015 seront entendus à partir d'aujourd'hui par la Cour d'assises spéciale de Paris. Après une journée déjà éprouvante hier pour les parties civiles, récit dans un instant. La liberté de la presse en question par ailleurs en Algérie. Le nouveau pouvoir en place chercherait à museler les voix critiques.
Au chapitre économique, les syndicats de Suez appellent à débrayer ce matin pour s'opposer au rapprochement avec le groupe Veolia, synonyme selon eux de suppression de postes. Suez-Veolia, une fusion risquée, c'est la question du jour dans une dizaine de minutes. Catherine Nicolas Mazouchki, chargée de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste des questions énergie, sera mon invitée.
Le tribunal de commerce de Lille examine aujourd'hui les propositions de reprise de Fildar. L'enseigne a tricoté en déclin ces dernières années. On remonte le fil dans ce journal. À suivre également le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Il débute son parcours à l'Assemblée aujourd'hui. Donner la parole aujourd'hui aux survivants du massacre de Charlie Hebdo, c'est une manière de répondre à la barbarie par l'intelligence, estime Cathy Richard, l'avocate du fils de Bernard Maris, l'une des parties civiles au procès des attentats de janvier 2015. La journée d'hier a été particulièrement éprouvante devant la Cour d'assises spéciale de Paris avec l'audition de l'ancien chef de la section antiterroriste de la police criminelle et la vision d'images insoutenables, Florence Turme.
D'abord, les photos, vision panoramique des locaux de Charlie Hebdo sur lesquels le technicien de la police criminelle déplace le curseur. S'arrête sur les corps souvent face contre terre, le sol taché de sang, tandis que Christian Do, l'ancien patron de la section antiterroriste, détaille les impacts, les tirs ciblés presque à bout portant. Puis, les images noir et blanc de la vidéosurveillance du journal, elle a filmé l'entrée des frères Kouachi, Kalachnikov à la main, menaçant la dessinatrice Coco. Le premier tir sur Simon Fieschi, le jeune webmaster du journal, les invectives muettes à l'écran contre Sigolène Vincent, à qui ils laisseront finalement la vie sauve. Dans la salle, les visages se figent, les familles se serrent les unes contre les autres, certaines préfèrent sortir. Maryse Wolinski, la veuve du dessinateur, elle, a choisi de rester.
Oui, pour moi c'était important, pour cesser les fantasmes. En fait, j'ai imaginé ces images. Bien sûr, quand il s'agit de mon mari, je n'ai pas regardé. En fait, je n'ai pas tout regardé. Il suffit de baisser les yeux et comme ça, on ne voit pas. Mais au moins, j'ai écouté, j'ai entendu. Par exemple, j'ai entendu une chose très importante pour moi. J'ai entendu que mon mari a fait un mouvement de défense. Ma présence ici aujourd'hui était indispensable.
Maryse Wolinski ne sait pas encore si elle ira jusqu'à la barre témoigner des conséquences de l'attentat sur ceux qui restent. À partir d'aujourd'hui, la parole est aux témoins survivants de la tuerie de Charlie Hebdo, mais également aux familles des victimes.
Pour la rapporteure spéciale de l'ONU sur les exécutions sommaires, le procureur saoudien a joué un nouvel acte dans cette parodie de justice avec des verdicts qui n'ont, selon elle, aucune légitimité juridique ou morale. Un tribunal de Riyad a annulé hier les peines capitales prononcées pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, tué en 2018 au consulat saoudien d'Istanbul. Des peines ont été prononcées allant de 7 à 20 ans de prison contre 5 prévenus. Ce verdict est loin de satisfaire les attentes de la Turquie. Nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu du corps de Khashoggi, qui voulait sa mort, ni s'il y a eu des complices locaux, ce qui met en cause la crédibilité du procès, indique Ankara. La Turquie, tout comme les États-Unis, avait désigné le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman comme le commanditaire du meurtre de Jamal Khashoggi. La liberté de la presse en question par ailleurs ce matin à Alger avec l'ouverture en appel du procès de Khaled Drareni, correspondant de TV5 Monde et de Reporters sans frontières, directeur du blog d'information Casbah Tribune. Il avait été condamné en première instance cet été à 3 ans de prison pour incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale, dans un contexte où le pouvoir algérien semble lancer une offensive contre toutes les voix critiques, Eric Biegala.
Ce nouveau procès visant Khaled Drareni, c'est peut-être le symbole de trop, le symbole d'attaques de plus en plus fréquentes contre les libertés fondamentales, non seulement la liberté de la presse, mais aussi toutes les autres. C'est en tout cas ce contre quoi protestait hier le collectif d'activistes qui manifestait à Alger contre la détention du journaliste. Maître Zoubida Assoul défend Khaled Drareni. Elle est aussi présidente du parti d'opposition Union pour le changement et le progrès.
Aujourd'hui, on est là surtout pour dire que la liberté de la presse, c'est l'affaire de tout le monde. Tout ce qu'on souhaite aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, tant que politique, en tant que juriste, on veut juste que les Algériens puissent bénéficier de leurs libertés qui sont consacrées par la Constitution et que le pouvoir respecte les lois du pays.
Parmi les attaques récentes contre la presse algérienne, on notera la condamnation le 24 août dernier d'Abdelkrim Zeguilech, directeur de la radio en ligne Radio Sarbacane, à 2 ans de prison, et ce pour atteinte à l'unité nationale, ou la récente décision de priver le quotidien El Watan, l'un des plus réputés du pays, de toute publicité publique. Le journal avait révélé dans son édition du 31 août les juteuses contractualisations des fils et du gendre de l'ancien homme fort du pays, le général Ahmed Gaït Salah, décédé l'an dernier. Hier, les deux fils en question ont d'ailleurs porté plainte contre le journal pour diffamation. Son directeur est convoqué devant le tribunal d'Annaba le 28 septembre prochain.
7h06 sur France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu, tous unis face à Veolia. C'est en quelque sorte le mot d'ordre de l'ensemble des syndicats de Suez, l'ancienne Lyonnaise des Eaux.
Ils appellent les salariés à cesser le travail aujourd'hui entre 9h et 11h contre le projet d'OPA lancé par leur concurrent Veolia qui pourrait entraîner, toujours selon les syndicats, des milliers de suppressions d'emplois. La direction de Suez craint elle aussi un démembrement complet du groupe. On y revient avec la question du jour, Guillaume, juste après ce journal. Là aussi, inquiétude. Étude pour l'emploi. Le tribunal de commerce de Lille examine aujourd'hui les propositions de reprise de Fildar, qui compte encore une centaine de magasins ou affiliés en France. Sur les 6 repreneurs potentiels, aucune offre ne prévoit de garder l'ensemble des 223 salariés. C'est l'histoire d'un long déclin et d'un divorce entre la famille Muliez et Fildar. Les explications de Marie Viennot.
L'enseigne de fil à tricoter est à l'origine de l'empire Muliez qui compte aujourd'hui des participations dans plus de 300 enseignes et 800 000 salariés. À la création d'Auchan dans les années 60, c'était Fildar même qui puisait dans son bas de laine pour aider l'enseigne de grande distribution dont les débuts furent difficiles. Dans les années 70, Fildar comptait plus de 2000 magasins en France, plusieurs centaines en Belgique et 3000 salariés, autant que chez Auchan à l'époque. Suivra ensuite un long déclin lié à l'ouverture du textile à la concurrence internationale dans les années 70, la montée en puissance de la Chine à la fin des années 80 et la fin de la mode du tricot fait maison. En 1990, l'usine de Roubaix ferme définitivement. Il y a 5 ans, Fildar s'était recentré sur la maille et le tricot en espérant que les réseaux sociaux et la mode du loisir créatif seraient le début de sa renaissance. Mais non, gilets jaunes en 2018, grève de l'hiver en 2019 et pandémie n'ont pas aidé la marque à se redresser. Mais c'est la décision ce printemps de l'AFM, l'association familiale Muliez qui gère les participations des héritiers de la famille, de ne plus la renflouer qui a conduit à son redressement judiciaire. Voilà donc le berceau de la famille et ses 223 salariés, dorénavant entre les mains des repreneurs potentiels et des administrateurs judiciaires qui les entendront aujourd'hui.
Le très controversé projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche débute son parcours aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avec cette LPPR, les universitaires dénoncent une précarisation accrue de la recherche. « Ayez confiance », a répondu hier le Premier ministre Jean Castex face à des manifestants. « Il s'agit bien de réarmer la recherche », indique Matignon. L'État arrive entre autres avec une enveloppe de 25 milliards d'euros étalée sur 10 ans. Une fausse bonne nouvelle, estime Clémence Cotto di Clemente, doctorant à Sorbonne Université.
Ce qui est certain, c'est qu'il était nécessaire et urgent que l'enseignement supérieur et la recherche aient un budget conséquent, puisque ça fait des décennies qu'ils n'ont plus d'argent. Cependant, sur ces 25 milliards, l'année prochaine, l'enseignement et la recherche vont voir 400 millions. Et après, rien n'oblige à ce qu'on utilise ces 25 milliards. Donc oui, c'est un bel effet d'annonce, mais pour l'instant, je peux pas savoir si ça va être suivi d'effet. J'étais avant cette réforme déjà assez inquiet sur la possibilité de pouvoir devenir maître de conférence. Je le suis encore plus puisque j'ai l'impression que cette précarité ne fait qu'augmenter. En fait, et que l'idée d'un CDI et d'un poste pérenne qui me permettra de faire une recherche de façon apaisée, sans penser sur le court terme, est de plus en plus éloignée.
Clémence Cotto di Clemente, doctorant à Sorbonne Université en littérature comparée, il répondait à Thomas Larabie. 28 établissements scolaires fermés en France à cause du Covid-19 ainsi que 262 classes, c'est le corollaire indispensable de la prudence que nous avons, a commenté hier le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, alors qu'un net rebond du nombre de cas de coronavirus est constaté dans notre pays, près de 30 000 nouveaux cas de Covid-19 détectés en 4 jours. L'Espagne, elle, franchit le seuil des 500 000 cas. cas. Des milliers de parents ne veulent plus désormais emmener leur enfant à l'école compte tenu des risques liés au Covid-19, estime-t-il. De son côté, le gouvernement russe annonce qu'il a commencé la production de son vaccin anti-Covid Sputnik 5 à destination de la population civile. Les professeurs et soignants russes seront vaccinés les premiers avant même que l'on connaisse les résultats de la phase 3 des tests cliniques qui sera menée en parallèle sur 40 000 personnes. On en parle dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. La crise sanitaire actuelle a un signal devant accélérer une prise de conscience de la relation entre environnement et santé. C'est ce qu'estime l'Agence européenne de l'environnement dans un rapport publié ce matin où il est question donc dans l'Union européenne de 13% des morts liées à la pollution, soit 630 000 décès par an. En tête de peloton, la Roumanie enregistre près d'un décès sur 5 lié à la pollution, tandis que les meilleurs élèves, la Suède et le Danemark, en déplorent 1 sur 10. Lui accuse son rival démocrate d'être un héros de la lutte pour l'environnement et donc au détriment des travailleurs. Donald Trump a réagi hier au déplacement de son rival démocrate, donc à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. La campagne américaine continue de se durcir avec aussi l'utilisation par les équipes des candidats Trump et Biden de photos truquées sur les réseaux sociaux. Déjà la semaine dernière, Facebook et Twitter avaient démantelé une opération russe de manipulation. L'influence des réseaux et les tentatives d'ingérence, surtout de Moscou, sont le talon d'Achille de cette campagne 2020 qui décidément ne ressemble à aucune autre Valérie Cantier.
Fini les campagnes de désinformation version 2016 pour discréditer un candidat. Aujourd'hui, les méthodes des hackers sont bien plus subtiles. De vrais journalistes embauchés par des sites d'information semblant sérieux. Les journalistes sont de bonne foi, les sites beaucoup moins. Ils sont en réalité souvent liés à l'IRA, une organisation russe proche du Kremlin. Vous ajoutez à cela l'incertitude d'avoir le résultat dès le 3 novembre au soir aux États-Unis et vous obtenez un cocktail explosif jamais vu. John Villasenor enseigne les relations entre politique et nouvelles technologies à l'Université de Californie à Los Angeles.
Ce qui inquiète, c'est que l'élection risque d'être très contestée, que les résultats mettent des jours à arriver. Et en plus, cette année, on a des réseaux sociaux très puissants. La dernière fois que nous avons eu des élections contestées, c'était en 2000, mais nous n'avions pas les réseaux sociaux. Donc cette fois, on a un ensemble de facteurs inédits.
En cas d'incertitude prolongée sur les résultats, Facebook s'attend à de nombreuses rumeurs et notamment à la tactique de type hack and leak. Des États donnent des informations piratées aux médias et les propagent en même temps sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'était passé avec des emails d'Hillary Clinton en 2016. Mais cette fois-ci, ça se ferait à une plus grande échelle via une multitude de canaux.
Sur les réseaux sociaux, Facebook peut-il contrer les interférences russes dans la campagne américaine? C'est un sujet à retrouver en une sur franceculture.fr avec l'analyse de John Villasenor, enseignant à UCLA. Le temps de ce mardi 8 septembre, nuageux au nord de la Seine, plus ensoleillé dans le reste de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 24 degrés près de la Manche, 24 à 28 dans le reste du pays et jusqu'à 31 degrés dans le sud-est.